Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
Bonjour à tous, c'est la libre antenne de l'économie sur BFM Business. Bonjour à vous qui nous écoutez en direct à la radio, à la télé. Bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Et bon, salut à vous qui nous écoutez peut-être en podcast. C'est BFM Business avec vous, la libre antenne en deux temps. D'abord, on va recruter comme tous les midis dans deux secteurs différents. On va être dans les outils de recrutement et puis on va être dans le sujet de la transition énergétique. Deux secteurs porteurs de recrutement. Recruteurs sont avec nous et puis comme tous les jours on va répondre à vos questions. Le thème du jour c'est travailler pour vivre ou vivre pour travailler. On va parler de ce rééquilibrage entre la mission, l'engagement et le salaire. On sera avec une partenaire du BCG pour décortiquer ces sujets. Vous avez des questions, vous nous les adressez en direct avec vous à bfmbusiness.fr. Vous pouvez m'écrire aussi en message privé sur LinkedIn, n'hésitez pas, ou bien dans le thread directement des différents directs YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, et on essaye d'adresser vos questions. Vos questions pour notre sujet questions-réponses, mais aussi pour nos recruteurs. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas, vous pouvez leur adresser vos interrogations. On va recruter, vous aussi, si vous avez besoin de candidats, de candidates, venez pitcher votre boîte sur ce plateau, nous raconter votre histoire d'entreprise et puis vos besoins. Et puis, si vous êtes candidat, candidate, eh bien, réagissez, posez vos questions, je les adresserai à nos recruteurs. Le premier recruteur, c'est Simon Baron. Bonjour Simon.
Bonjour Lorraine.
Simon, vous êtes directeur produit et responsable de l'équipe Talent, ça nous concerne, chez Assess First. Avec vous, on est dans le recrutement prédictif. C'est presque une mise en abîme cette interview, parce qu'on va parler littéralement de recrutement et d'outils. Je vais vous laisser pitcher Assess First, et puis après, on parlera de vous, de votre entreprise, parce que vous avez besoin de gens, de talents pour vous rejoindre. On vous écoute.
Absolument, Lorraine. Je vais commencer par Assess First. Je dirais qu'on est la référence aujourd'hui pour les entreprises qui veulent identifier le talent de leurs candidats, de leurs collaborateurs, que ce soit dans des perspectives de recrutement ou de développement des compétences. Donc concrètement, l'idée c'est qu'on permet aux entreprises de plutôt se centrer sur qui sont les personnes et d'éviter de regarder uniquement leur CV à travers des questionnaires qui vont s'intéresser au comportement qu'elles privilégient au travail, à leur motivation, à ce qu'elles recherchent dans leur job. Et à partir de ça, on va être en mesure d'identifier les candidats qui ont un plus fort potentiel de succès et d'engagement dans certaines entreprises et de les rapprocher finalement et de les faire se rencontrer.
Alors, vous êtes au service du marché de l'emploi, côté employeur. Aujourd'hui, vous êtes 115, mais la boîte n'est pas toute jeune. 2002, c'est assez vieux quand même. Vous êtes 115, je viens de le dire.
Je ne vais pas le prendre personnellement.
Non,
ouais, non c'est vrai qu'il y a une histoire derrière cette entreprise. Déjà, elle est autofinancée, donc ça prend du temps, surtout quand c'est des deux jeunes diplômés qui lancent une entreprise. Mais ça nous permet aujourd'hui d'être forts de ces années à développer une entreprise fiable et rentable. Et elle a vraiment explosé ces dernières 5 ans. Ce passage à 115 est récent et on a encore besoin de personnes pour compléter les équipes.
Voilà, autofinancée. Et quelques chiffres pour finir le portrait. Hein. Vous avez 10 000 clients qui utilisent la plateforme, on peut l'appeler ça comme ça,
une plateforme.
Et puis vous avez quand même 3500 clients répartis dans 40 pays, donc vous outillez une partie du monde, on va le dire comme ça. Alors vous êtes avec nous, Simon, avec votre casquette à la fois produit et à la fois RH, pour recruter. Vous cherchez une trentaine de personnes en France et une poignée de gens côté Royaume-Uni. Listez-nous les postes qui sont urgents à pourvoir chez Assess First.
Je dirais qu'on est confronté aux mêmes besoins que toutes les boîtes tech. Si vous êtes à l'aise pour faire face aux clients, on a un ensemble de fonctions qui vont depuis la prospection jusqu'à la fidélisation et la formation des utilisateurs.
C'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins.
SDR, BDR, adaptés à tous les besoins. OS.
Renew. Véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence, diesel, reconditionnés et certifiés.
Avec des utilisateurs.
Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renew d'occasion avec 3 ans d'entretien. Tiens, 3 ans de garantie
auprès des
pour seulement 1 euro de plus.
C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont contacter les RH, les recruteurs, en leur disant « Écoutez, aujourd'hui, vous intéressez au CV des candidats pour recruter. Nous, on vous propose une autre approche du recrutement, une approche centrée sur les personnes. Est-ce que ça vous dit d'en savoir plus ?» Quand elles veulent en savoir plus, ça passe à des accounts exécutives, donc des gens qui vont plus présenter concrètement la situation de l'entreprise et qu'est-ce que notre solution pourra leur apporter, et jusqu'à après la partie fidélisation et formation à l'utilisation de l'outil. Donc c'est vrai qu'on a un scope très large qui permet d'intéresser un nombre important de candidats.
Voilà, bien sûr, vous disiez aussi que vous êtes une boîte tech, vous avez aussi besoin de profils développeurs. En deux, trois mots, peut-être votre stack technique et les profils que vous recherchez.
On recherche des profils dev, back, front, la cybersécurité, particulièrement des machine learning engineers et data engineers, parce que aujourd'hui, toute solution fait la différence à travers son intelligence, son
débat et controverse sur BFM Business.
Et on est toujours en recherche de profils.
Nicolas Dose accueille les experts.
On va continuer à faire bonjour et bienvenue. La qualité économique du jour, la Banque Centrale Européenne, comme prévu, a imposé 50 points de base. Mais
d'abord,
Christine Lagarde prévient que ce sera probablement la même sanction au mois de mars. Les marchés ne bougent pas. Pas mal d'économistes considèrent que de toute façon, elle n'ira pas bien loin.
Parce que c'est bien si on monte. Ça se passe sur Welcome to the Jungle. Assess first. Et puis, bien sûr, vous allez retrouver aussi cette interview en replay ou en podcast d'ici quelques minutes pour réécouter Simon et pouvoir postuler de manière plus anglais. Vous avez des questions pour Simon, vous pouvez nous les envoyer pendant le direct, je lui poserai. On va accueillir notre deuxième recruteur. Mais avant ça, Simon reste avec nous. Et avant ça, je vous donne un chiffre. C'est 80 151. Ce sont le nombre d'offres de postes qui ont été promues sur notre antenne depuis le mois de septembre. Vous voyez, on a deux recruteurs qui viennent par jour, 5 jours par semaine. Je vous laisse faire le calcul. Ça recrute pas mal. Vous aussi, vous recrutez, eh bien, venez pitcher votre entreprise. Venez nous parler de vos besoins et parler de votre boîte. On parle économie hein, à travers le scope du recrutement. Et puis, si vous êtes candidat, bah, vous nous posez vos questions pendant le direct. Et puis, je les adresse. LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. Et puis, l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Sans transition, on va reparler énergie aujourd'hui et transition énergétique avec notre deuxième recruteur. Il s'agit de Citron. Citron, c'est le nom de la boîte. C'est son fondateur, Vianney Rasquin, qui est avec nous. Bonjour, Vianney.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser pitcher Citron en une minute pour ceux qui nous suivent en direct. Allez-y, on vous écoute.
Ça marche. Alors, Citron, c'est une société française spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments s'adresse aux responsables immobiliers, aux responsables techniques et aux responsables du développement durable d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise professionnelle de l'immobilier pour accélérer la transition énergétique. Pour ça, on s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est une plateforme web Big Data et IoT qui va collecter toutes les données liées à l'énergie d'un patrimoine immobilier pour restituer à son utilisateur un outil d'analyse, des outils de suivi et des outils de reporting. Et on s'appuie également sur notre deuxième pilier qui est des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, des energy managers qui vont accompagner nos clients à travers des prestations intellectuelles, soit ponctuelles comme des audits énergétiques, soit récurrentes comme un accompagnement en décret tertiaire.
Voilà, deux piliers, une plateforme SaaS, un logiciel et puis de l'humain en face si je résume. Bon, vous êtes dans un secteur en plein changement avec plein de régulations qui tombent. En fait, vous simplifiez le boulot des professionnels du bâtiment si je résume un peu vulgairement, c'est ça ?
Alors, pas forcément des professionnels du bâtiment, puisque chaque entreprise possède des bureaux, chaque collectivité possède des bâtiments communaux, des collèges, des lycées, etc. En fait, on va venir renouveler le métier de l'energy manager. Le métier de l'energy manager, il y a encore quelques années, c'était de récupérer des données sur des factures, à travers des plans, à travers des visites techniques, etc. Aujourd'hui, on veut mettre entre les mains de l'énergie manager, qu'il soit en interne chez nos clients, qu'il soit chez Citron, chez nos partenaires, chez des exploitants, etc., on va lui permettre de lui donner l'outil qui va supprimer toutes ces tâches chronophages et qui va progressivement être capable de lui apporter toute la valeur ajoutée, tous les algorithmes qui vont lui permettre de détecter quelles sont les actions de performance énergétique à mettre en place dans un bâtiment, suivre le déploiement de ces actions et constater les résultats.
Oui, pas tellement des professionnels, mais des propriétaires de bâtiments. Parce que vous êtes concernés, d'ici 2030, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce décret tertiaire qui implique une diminution de 40% de la consommation. Et ça se prépare dès maintenant. Alors, vous êtes avant tout fondateur d'une entreprise dans ce secteur. L'entreprise, elle date de 2011. Vous êtes actuellement à la recherche d'une cinquantaine de personnes pour vous rejoindre. On ne va pas pouvoir lister les 50 postes, cher Vianney, mais donnez-nous une idée des typologies de jobs qui sont urgents à remplir dans votre boîte.
Tout à fait. On a annoncé au début de l'année un plan de recrutement de 200 personnes, dont 50 sont à recruter le plus tôt possible. Alors, on recrute vraiment de manière assez large dans toutes les équipes. Alors, ça peut être dans l'équipe produit, des PO, des PM QA engineers. Ça peut être également dans l'équipe tech où on va chercher des développeurs de toutes sortes. On va chercher également des commerciaux, des SDR, des key account managers. On va chercher évidemment, puisque c'est le cœur de métier de l'entreprise, des personnes qui vont accompagner nos clients à travers des prestations intellectuelles ponctuelles ou récurrentes. récurrente d'efficacité énergétique, donc des energy managers, des ingénieurs en efficacité énergétique. On va chercher des chefs de projet smart building et puis évidemment des personnes qui vont pouvoir nous accompagner dans la structuration de l'entreprise. Ça peut être des personnes sur la partie RH ou financière.
Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes un peu moins d'une centaine, vous êtes 85, je ne sais pas comment on se remplit votre plan de recrutement, mais voilà, on est sur une boîte en croissance. Un chiffre peut-être pour finir le portrait, c'est 5 millions. C'est 5 millions de données que vous brassez chaque jour avec l'équipe.
Tout à fait. Ça donne mal à la tête hein, quand on se dit ça, 5 millions de données. Mais au final, les technologies aujourd'hui qu'on est capable de déployer chez Citron nous permettent d'accumuler des données très variées. Ça peut être des sondes de température, ça peut être des données de consommation, des données de coût énergétique. Toutes ces données-là, mises ensemble, elles vont permettre de détecter les actions de performance énergétique dont on a besoin pour réduire sa consommation, réduire ses coûts et se mettre en conformité avec les nouvelles obligations réglementaires.
Une question d'Annalisa, notre productrice, qui nous demande pourquoi vous appelez Citron.
Et ça me fait plaisir qu'on me pose cette question, parce qu'on me la pose absolument à chaque fois qu'on a une réunion. Et je pense que la vraie réponse, alors à la base c'était pour se marrer. On a une vision de l'entreprise qui est vraiment avec un rôle social. C'est-à-dire qu'on vient pour travailler, mais on vient aussi pour rencontrer des gens, pour rigoler, pour vivre. Et quand on a posé la question à des boîtes de communication, comment on devait se renommer quand on a fait un virage digital, elles nous ont donné pas mal de noms, mais globalement, aucun ressortait. La seule chose qu'elles nous ont dit, c'est surtout vous appelez pas Citron, puisque c'était une idée qui venait de nos équipes. Et globalement, on a sorti nos boîtes de communication et on s'est dit, si nos équipes veulent s'appeler comme ça, on s'appellera comme ça. Même si à l'époque, Citron plus énergie sur Internet, c'était plutôt une recette de smoothie. Oui, aujourd'hui, faites l'essai, vous verrez que c'est une start-up prometteuse.
Voilà, on vous garde, Vianney, pour continuer à faire le portrait de votre entreprise. D'abord, je vous renvoie, comme pour notre précédent recruteur, Simon, sur Welcome to the Jungle pour retrouver la cinquantaine d'offres à pourvoir. On a parlé de 50 postes seniors ou en tout cas en CDI. Et puis pour les plus jeunes aussi, vous offrez une dizaine d'alternances et de stages. Je vous garde tous les deux. Pour finir le portrait de vos boîtes avec quelques questions. On va parler du télétravail parce que vous êtes deux boîtes assez digitales. On n'en a pas parlé, Simon, mais toutes vos équipes sont en full remote. Et chez vous, Vianney, les salariés sont en autonomie sur le sujet. Je vous cite. Alors, comment on donne envie aux salariés de venir au bureau chez vous, Vianney? Et puis chez vous, Simon, comment vous faites pour maintenir la communication en full remote? Peut-être Vianney pour démarrer.
Alors, je pense qu'avec Simon, on a une vision qui n'est pas du tout la même du sujet. Pour nous, le full remote, c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la vision du travail comme aussi vecteur d'activité sociale. On a envie que les gens, quand ils viennent au travail, quand ils prennent un travail, quand ils viennent chez Citron, ça soit pas que pour un salaire, que ça soit pas que pour s'occuper la journée, mais que ça soit aussi pour rencontrer du monde, s'amuser et puis partager des moments sympas avec des collègues. Ça nécessite de se voir de temps en temps, de se voir même régulièrement. Alors, ça n'empêche pas le télétravail. Le télétravail, on laisse les gens faire à peu près ce qu'ils veulent. On a mis quelques règles quand même pour soutenir la croissance de Citron. Quand quelqu'un vient d'arriver, on a envie qu'il puisse rencontrer du monde dans un peu toutes les équipes. On a envie qu'il soit formé par des gens en physique pour que l'interaction soit meilleure. Mais sinon, dès qu'on est formé et qu'on est autonome sur ses tâches, on peut rester chez soi quand on en a envie ou quand on en a le besoin.
Bon, le 100% distanciel chez vous, chez Assessfirst, à quoi ça ressemble?
Ça ressemble à la capacité à dire aux personnes, vous pouvez vivre où vous voulez, la vie que vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'on partage la même mission et qu'on l'accomplisse ensemble depuis ce lieu de vie.
Simon, vous êtes obligé de nous dire où est-ce que vous vivez?
Ah, je vis dans les montagnes, près de Grenoble. Notre direct CEO est à Palma de Mallorca. On a des personnes autour de La Rochelle, autour de Lille, de Rennes. Vraiment, on couvre la France et on a même des personnes qui travaillent depuis l'étranger très facilement. Et on ne perd rien au lien qu'on peut avoir ensemble.
Comment vous vous retrouvez? Vous vous retrouvez de temps en temps?
Ouais, on a mis en place deux rendez-vous annuels avec toute l'entreprise. Donc le dernier était à Ibiza, le prochain sera près de Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on a ces temps forts deux fois dans l'année. Et à côté de ça, le budget bureau, parce qu'on a eu des bureaux à une époque et c'était un moment si formidable, on l'a transposé en budget remote, ce qui permet à chaque personne d'avoir 1 600 € de budget pour aller rencontrer son équipe, prendre des Airbnb pendant quelques jours ensemble. Et donc, on ne perd pas ce lien, on l'a juste réinventé en fait.
Une question peut-être pour conclure ces portraits qu'on fait de vous. Je voudrais vous faire rebondir sur un chiffre du BCG dont on va reparler avec Fanny Potier d'ici quelques minutes d'ailleurs. Vous pouvez rebondir dessus. 7 talents français sur 10 qui sont prêts à refuser une offre d'emploi à cause d'une expérience de recrutement négative. Qu'est-ce que c'est qu'un recrutement qui se passe bien? Vianney, chez vous, décrivez-nous le recrutement idéal.
Un recrutement qui se passe bien, c'est quand on recrute une personne qui partage les mêmes valeurs et qui a la même envie, la même conviction pour répondre à ces valeurs. Chez Citron, on recrute des personnes qui sont convaincues que le digital va nous permettre d'accélérer la transition énergétique. On recrute des personnes qui sont dynamiques et qui cherchent à se donner à fond dans un métier et dans une aventure humaine assez incroyable qui est Citron. Et enfin, on cherche des personnes qui ont envie d'avoir un réel impact sur leur environnement et de transformer les choses.
Bon, et Simon, pour conclure, comment vous estimez qu'un recrutement se passe bien ? C'est quoi un recrutement, un onboarding réussi chez Assess First ?
Un recrutement qui se passe bien, c'est déjà un recrutement qui commence de façon ouverte, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de demander un diplôme spécifique, X années d'expérience. À un moment, quand on s'intéresse à qui sont les gens et leur potentiel, on est capable de tomber sur des vraies pépites qui vont être formidables dans le job, et la plupart des entreprises sur un recrutement classique passent à côté. Donc, bien recruter, ça commence par s'ouvrir à de la diversité, et c'est ce qu'on fait, je pense.
Voilà, vous avez les infos. Maintenant, si vous voulez postuler, eh bien, vous avez entendu, ça se passe essentiellement sur Welcome to the Jungle, chez Assess First et chez Citron. Merci à nos deux recruteurs. On va continuer à parler recrutement humain, engagement aussi, avec Fanny Potier, partenaire au BCG, qui me rejoint pour répondre à vos questions en direct. Vous avez des questions, vous nous écrivez LinkedIn, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, et puis bien sûr l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On va parler de ce chiffre, 7 Français sur 10 qui refusent un job parce que le processus de recrutement ne leur a pas plu. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution des process de recrutement dans notre pays ? Qu'est-ce que ça dit du rapport au travail ? On va parler aussi rééquilibrage de l'équation mission-engagement-salaire, cette équation à 3 variables. Et pour tout ça, eh bien, je salue à nouveau Fanny Potier qui m'a rejoint. Bonjour Fanny, rebonjour.
Bonjour Laurent.
Alors, on a commenté tout à l'heure, hein, vous pouvez retrouver cette chronique sur nos différentes plateformes, ce chiffre de 7 talents français sur 10 qui refusent un boulot parce que le recrutement ne s'est pas passé à leur guise, on va dire. C'est quoi la définition d'un recrutement qui se passe très mal, Fanny, du point de vue du BCG?
Alors, un recrutement qui se passe
La
note to-do list, c'est exactement... alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut du rythme, donc pas rythmé, c'est-à-dire que vous avez un contact, on vous laisse tomber, puis après, le pire, c'est vous qui devez relancer la machine. Aucune interaction physique. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai échangé avec une collègue qui me disait qu'elle était en processus de recrutement, et elle me dit, j'ai fait que de l'hybride, que du virtuel, j'ai jamais vu les personnes de l'entreprise. Donc ça, c'est la note tout doux. Il faut du présentiel. Il faut de la personnalisation. Donc la personnalisation, c'est de l'engagement, voilà, en présentiel, mais c'est aussi vous donner du feedback. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus on vous dit, ah oui, la personne que t'as rencontrée, elle a pensé ça, et toi, t'en as pensé quoi, etc. Voilà. Et puis, alors, notre tout doux, c'est le biais. Les biais dans le recrutement. Donc tout ce qui peut amener à penser à un candidat qu'il y a des biais dans la sélection de son CV, il y a des biais dans la façon dont on le rencontre, etc., à éviter impérativement.
On va démarrer par un témoignage d'une de nos auditrices, Valérie, qui m'a écrit à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Je vous le lis, Fanny, c'est un peu long, mais je pense que ça va nous servir de point de démarrage. Beaucoup d'employés demandent à travailler à mi-temps car ils ont le droit à un complément de salaire plus avantageux que de travailler à temps plein. Une de mes employées m'a expliqué qu'elle préférait ne pas venir pour toucher le complément de salaire du chômage. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire face à cela. Comment on rattache ce témoignage de Valérie, employeur, et ce rapport au mi-temps et ce rapport plus globalement à notre envie de travailler?
Alors, cette enquête comporte pas mal d'éléments sur le rapport, plutôt sur l'organisation du travail. Je vais ouvrir un tout petit peu plus que ça, parce que on voit qu'il y a énormément de discussions aujourd'hui sur la flexibilité, ce qu'on appelle la flexibilité, et qui prend plein de formes différentes. Donc, c'est l'hybride. Donc, dans l'enquête, 76% des Français nous disent...
C'est l'enquête dont on parle. Vous avez pu publié avec Cadre Emploi une enquête vaste, mondiale. 90 000 personnes sondées, je crois.
160 pays et 1900 en France. Donc cette enquête porte sur le processus de recrutement et l'expérience utilisée, l'expérience des candidats en fait dans le processus de recrutement. Mais évidemment, on leur demande aussi ce qu'ils attendent d'un job. Et donc 76% des Français qui répondent à l'enquête nous disent qu'ils veulent de l'hybride. Voilà. Ensuite, on a des questions autour de le temps de travail, c'est quoi pour vous finalement ? Donc là, moi, c'est un des éléments de surprise en lisant l'enquête, c'est 80% des Français répondants nous disent qu'ils veulent une semaine de 5 jours. Donc, pour reprendre le témoignage que vous partagiez, je pense qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on a tous des attentes très différentes. En fait. Et ça pose une question de promesse employeur pour les entreprises et de s'adapter et d'essayer de s'adapter quand même à des préférences individuelles dont on voit qu'elles sont assez diverses et qui finalement n'est que le reflet de la diversité des profils en entreprise. Hein.
Le recrutement, le processus de recrutement en dit long sur les entreprises. C'est un petit peu, vous avez fait un lapsus en disant l'expérience utilisateur, l'expérience candidat, c'est tout ça se chevauche maintenant. On parle beaucoup de candidats fantômes, de ghosting. D'ailleurs, ce sera le sujet de notre émission mercredi prochain. Mais il y a aussi les recruteurs qui ne répondent pas. Vous nous disiez les choses qu'il ne faut pas faire et les choses qu'il faut faire. Quels sont les facteurs les plus importants qui ressortent dans votre étude de ce que les Français, quels sont les facteurs les plus importants pour les Français, les facteurs qu'ils essayent de valider pendant justement ces entretiens d'embauche?
Oui. Alors les Français, d'abord, quand ils regardent une offre d'emploi, ils sont très intéressés en fait par deux choses. La localisation du poste et le fait que ce soit un poste à impact. Par ailleurs, on sait aujourd'hui de nouveau, avec beaucoup d'enquêtes, y compris celle-là, que plus d'une personne sur deux en fait refuserait de travailler pour une entreprise qui n'a pas un agenda RSE ou qui n'a pas d'agenda en matière de diversité et d'inclusion.
Hein. On est quand même sur des Français plutôt profil cadre.
On est sur des Français plutôt profil cadre. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'enquête talent, en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est déjà très important. Après, une fois qu'on a regardé les offres et qu'on s'est dit je vais aller plus loin sur celle-ci, d'accord, donc celle-là m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui va être important et privilégié par un Français? Ça va être l'équilibre, un job stable avec un équilibre de vie professionnelle et personnelle. Au moment où, on a déjà parlé du processus de recrutement et de ce qui était important pendant le processus, au moment où vous recevez votre offre, de nouveau, c'est un moment assez essentiel, en fait, dans le processus de recrutement. Qu'est-ce qui va compter pour le Français ou la Française? Ça va être, curieusement, et là, c'est un peu différent peut-être de par le passé, c'est l'adéquation entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, on revient... Donc, ça veut dire que si on pense qu'on n'a pas d'adéquation entre ses valeurs personnelles et les valeurs professionnelles ou celles qu'on perçoit de l'entreprise, on pourrait être amené fortement à décliner l'offre. Après, on revient à des considérations d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Le salaire ne vient qu'en quatrième position.
Je vais vous partager une réaction de Richard qui m'a écrit sur LinkedIn. Il dit qu'on aborde un sujet très intéressant, merci beaucoup, mais très important. Ce qui est important aussi, c'est l'intégration d'un collaborateur parce que beaucoup d'entreprises prennent trop à légère les intégrations, donc ce qui suit le processus de recrutement, et donnent une mauvaise image aux jeunes collaborateurs. Est-ce que du coup, une fois qu'on a dit oui à une offre, pour plein de raisons, peut-être notamment les plus jeunes parce que voilà, il faut à tout prix avoir un boulot, etc. Vous observez, est-ce que dans cette étude, vous avez observé des taux de démission très élevés qui suivent ces mêmes facteurs que vous venez de nous lister? Est-ce qu'il y a un deuxième round quelque part des facteurs qu'on avait validés pendant le processus de recrutement et en fait, dans les 2-3 premiers mois du job, on leur donne une deuxième chance, on essaye de les revalider à nouveau?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, la promesse employeur, c'est pas une promesse, c'est pas une affiche marketing qu'on met sur les murs de son entreprise pour faire venir les candidats. La promesse employeur, une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on vient de se dire sur le recrutement, c'est très très important en fait qu'elle soit concrétisée et matérialisée dans les premiers mois et les premières années du job et de quand on travaille ensemble en fait finalement le candidat ou le collaborateur et l'entreprise. Donc s'assurer en fait que vous continuez à matérialiser et à donner des preuves en fait de ce que vous avez promis au candidat au moment où vous étiez en train de vous regarder et de vous dire est-ce qu'on va se plaire, est-ce qu'on a envie de se marier finalement, c'est absolument essentiel. L'enquête ne mesure pas précisément de taux de satisfaction si vous voulez ou de taux de d'insatisfaction par rapport à ça, mais par ailleurs avec tout le travail qu'on fait avec les entreprises, on sait que c'est fondamental.
Vous nous disiez ce chiffre, cet enseignement de l'étude. Les Français, ils sont à la recherche d'un emploi stable et d'un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Vous disiez que la localisation, c'était important. L'impact du poste, ou plutôt un poste à impact, c'est important. Comment on imagine voilà, sa carrière à long terme? C'est quand même stabilité et puis équilibre. Est-ce que la crise sanitaire a accentué ce besoin de stabilité et d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, ou est-ce que c'était déjà des choses sous-jacentes que vous sentiez au BCG?
On voyait cette inflexion se profiler, donc ça confirme. Ce qui est, je trouve, assez intéressant dans l'étude, c'est que dans les projections de carrière, en fait, donc je suis allée sur le champ du job stable et de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En fait, le deuxième facteur, c'est le poste à impact, on l'a déjà dit. Le troisième facteur, c'est je ne pense pas tellement plus loin que ça. En fait, contrairement à avant le Covid, où finalement les possibilités de se développer au sein d'une entreprise étaient quand même toujours un facteur assez élevé dans les attentes, là, on a un peu l'impression qu'on va pas tellement plus loin que le job d'après.
Ouais, une vision un petit peu plus myope, mais qui n'est pas forcément un signe négatif. Finalement, si on peut se permettre d'être un peu plus myope, c'est qu'on est un petit peu plus serein aussi.
Certes, et puis je pense que c'est lié, là, faut revenir au contexte général dans lequel on est, où il y a quand même tellement d'incertitudes et de volatilité. Un job sur deux du futur n'existe pas. Ouais. Moi, je vais vous parler d'une expérience très personnelle. Mon fils est en terminale, on est en plein dans le dossier Parcoursup. Donc, je le rassure en lui disant ça, en lui disant un job sur deux n'existe pas. Donc, faisons déjà la prochaine étape. Voilà, les fondamentaux qui vont te permettre après de rebondir. Mais on est dans des périodes où, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des candidats, le rebond, l'agilité, l'adaptabilité et puis prendre des trajectoires très différentes, c'est ça qui va se passer. C'est notre futur à tous.
Un job sur deux n'existe pas. Voilà. Soyons sereins dans notre capacité à trouver le bon job au bon moment, y compris quand on est en train de remplir ses dossiers de Parcoursup. Ça s'applique pour les parents qui nous écoutent, mais peut-être aussi pour les jeunes gens. Je vais rebondir. Il nous reste 4 minutes sur deux choses. La première, vous disiez les Français et les Françaises. Est-ce que justement il y a une différence entre les deux genres dans l'étude que vous avez menée sur cette perception, sur le rapport au travail, comment on imagine sa carrière à long terme, ou est-ce que ça se superpose chez les cadres?
Non, c'est relativement homogène. C'est plus dans les questions d'organisation du travail, donc dans justement les modalités temps partiel, pour revenir au témoignage que vous évoquez, où il peut y avoir quelques variations selon qu'on est homme ou femme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que les jeunes hommes ont à peu près les mêmes aspirations que les jeunes femmes.
Un mot, une formulation qui m'a interpellée en étudiant cette étude, c'est agir à hauteur de son salaire. Agir à hauteur de son salaire. Thomas nous a écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr en utilisant cette expression. Mais lui, il n'est pas cadre. Il m'écrit « Je suis payé 1 800 € brut seulement pour un poste de responsable de communication. C'est très peu étant donné mon niveau d'études. Du coup, je travaille à hauteur de mon salaire. » C'est-à-dire très peu. Travailler à hauteur de son salaire, est-ce que c'est une nouvelle expression qui arrive aujourd'hui? Est-ce que vous l'entendiez avant? Est-ce qu'elle concerne les cadres? Est-ce qu'elle concerne plus les cadres?
Je pense que c'est pas nouveau, c'est peut-être une formulation qui est exprimée différemment. Alors nous, on s'exprime pas sur les rémunérations et l'étude n'était pas sur ce terrain-là. En revanche, c'est vrai que on voit beaucoup plus de souplesse ou de flexibilité à aménager, si vous voulez, des dispositions de temps de travail et à accepter. Des deux côtés, mais aussi du côté des collaborateurs, à accepter de perdre un peu de pouvoir d'achat finalement parce que en fait on va travailler moins et qu'on va pouvoir de nouveau aller vers de l'équilibre vie pro vie perso, et ça prend énormément de formes. Alors là, la question est plus sur la valeur intrinsèque qu'on donne à un collaborateur via un salaire, mais ça c'est pas l'objet de l'étude.
Il y a 1000 autres questions autour de cette étude, autour de notre rapport au travail. La conclusion, c'est que les talents ne vivent plus pour leur travail, mais Les talents ne vivent plus pour leur travail, mais travaillent pour vivre. C'est ça qu'il faut retenir. 70% des gens qui recherchent avant tout un emploi stable et un bon équilibre de vie, français, mais aussi internationaux, puisque votre étude, elle est internationale. Je vous renvoie, hein, What Job Seekers Wish Employers Knew. C'est l'étude cadre emploi BCG que vous pouvez retrouver sur le site. C'est un sujet qu'on continuera à filer sur notre antenne. Continuez à nous écrire. Merci beaucoup Fanny Potier d'avoir été avec nous. Lundi, on parlera droit du travail. Vos questions, nos réponses. D'ici là, vous pouvez continuer à nous écrire l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On est en direct tous les midis à 13h sur les réseaux sociaux. Je vous donne le programme de la suite de la journée. On est vendredi, c'est les experts, le best-of des experts là, dans la demi-heure qui suit. À 14h, vous retrouverez notre émission spécialisée sur la com, HebdoCom, présentée par Rebecca Blanc-Lelouch. 14h30, la France a tout pour réussir, Jérôme Tuchit. Et puis à 21h, notre nouveau rendez-vous dédié au luxe iconique business d'Audrey Maubert. Super week-end, merci à toute l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis et continuez à nous écrire.
BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.